Les voies de l'égalité. La maltraitance envers les personnes âgées et les adultes en situation de handicap reste une réalité souvent invisible, parfois taboue, mais bien présente, qu'elle soit physique, psychologique, financière ou institutionnelle. Elle touche beaucoup de personnes chaque année. Pour lutter contre ces violences et accompagner les victimes, un numéro existe. On en parle tout de suite avec Élodie Durand, responsable ressources privées et communication de l'association.
Le professeur Huguenot, en 1995, lors d'un tour de France, en fait, des CH et des structures, en fait, gérant les personnes âgées, se rend compte, en fait, du manque de liens et d'écoute qu'il y a face aux situations de vie, d'isolement et de solitude des personnes âgées. Et il décide, en fait, de créer des structures qui ouvriraient des lignes d'écoute et des permanences pour pouvoir, justement, avoir une meilleure connaissance et pouvoir créer du lien avec ces personnes, notamment sur les différents types de difficultés qu'ils rencontrent. Donc, il crée des structures qui s'appellent les centres ALMA au niveau départemental. Et en 2014, l'État décide en fait de structurer autour d'une fédération nationale et d'une plateforme nationale d'écoute. Et c'est là que se crée la fédération 3977 avec le numéro unique qui officie depuis 15 ans maintenant sur la question des maltraitances. C'est une ligne d'écoute qui permet déjà de pouvoir échanger et communiquer avec des professionnels, à la fois de la maltraitance et puis des publics âgés et adultes en situation de handicap, pour ensuite à la fois accompagner les démarches mais aussi réorienter vers les partenaires institutionnels adéquats localement ou le cas échéant au niveau juridique ou national. On est une ligne d'écoute. Mais par contre, en fait, on contacte les personnes qui demandent, donc soit directement les personnes qui sont maltraitées, soit en fait l'entourage qui appelle, les témoins, pour leur expliquer les démarches. Nous, en fait, on est un facilitateur, un médiateur qui accompagne les personnes en fait dans les démarches, quelles qu'elles soient. Donc on oriente. Alors en fait, déjà sur le premier point, on se rend compte qu'il y a en effet une augmentation du nombre d'appels. On a eu l'an dernier 60 000 appels qui sont arrivés sur la ligne du 3977 et on va arriver quasiment à plus de 10 000 en 2025. On voit quand même qu'il y a une forte croissance des appels. La parole s'est libérée notamment en fait depuis, je pense, le scandale médiatique qu'il y a eu autour d'Orpea et du livre Les Fossoyeurs qui a permis vraiment une prise de conscience. Je pense que sur la population des personnes âgées et des adultes en situation de handicap, il y avait une certaine omerta, dans le sens où les gens n'osaient pas parler, n'osaient pas faire part en fait de leurs problématiques, à la fois parce que généralement les personnes ont moins de facilité à pouvoir communiquer, mais aussi parce que 75% des maltraitances qu'on a révélées nous par le biais de nos appels sont issues en fait de l'intrafamilial et du domicile. Donc il y a aussi une complication par rapport au fait de dénoncer ou de vouloir mettre en péril des situations familiales sur lesquelles on préfère qu'il y ait le silence ou le huis clos. Donc il y a la dimension familiale qui est aussi une vraie problématique au-delà de la libération de la parole aussi.
L'accompagnement se fait sur combien de temps ?
Alors en fait, ça peut prendre le temps qu'il faut. Il n'y a pas de limite en fait de temps. Généralement, les personnes lors du premier appel, c'est plutôt un appel déversoir où les gens lâchent prise sur la problématique et enfin arrivent à trouver un endroit où pouvoir poser la problématique. Et une fois que les choses sont posées, ce sont les centres ALMA qui prennent le relais au niveau local pour à la fois prendre le contact, essayer un peu de décrypter la situation, de l'analyser et de trouver à la fois le bon timing pour la personne, parce qu'en fait on ne fait pas à la place de l'autre, on laisse toujours en fait l'action dans les mains en fait de la personne qui appelle, qu'elle soit victime ou entourage ou témoin. Donc on laisse le temps à la personne de choisir le moment où elle se sent capable et suffisamment forte pour pouvoir agir. Donc l'accompagnement peut se faire de façon très rapide, mais c'est toujours basé sur les besoins et la capacité de la personne appelante.
On parle de personnes vulnérables. Comment on peut situer la maltraitance ? Je pense surtout à certaines attitudes, paroles ou négligences du quotidien. Comment est-ce que vous évaluez ça ?
Alors, il y a une définition en fait qui a été inscrite dans la loi et qui est malheureusement en fait quand même assez vague. Il y a 7 types de maltraitance. Il y a des maltraitances qui sont, on va dire, évidentes, qui sont des maltraitances, on va dire, physiques, financières, administratives ou institutionnelles, où là, en fait, les faits peuvent être tangibles. Et ensuite, il y a des maltraitances un peu plus insidieuses, qui sont des maltraitances, on va dire, psychologiques, ou des négligences à caractère répétitif et parfois même involontaires, qui sont liées à un contexte familial, à une antériorité, à un historique, mais qui ne sont pas foncièrement faits dans le but de rabaisser ou de faire mal à la personne. Mais en fait, c'est toute action qui, à un moment donné, rabaisse la personne, la met dans une situation où elle n'est plus maître à la fois de ses décisions, où elle n'est plus maître de ses actions, où elle n'est pas consultée et où elle est imposée de façon, on va dire, à sens unique, dans une direction ou par le biais d'une décision. Donc là, je parle des maltraitances qui sont plus fines, on va dire, et moins évidentes, en tout cas moins tangibles. Donc à partir du moment où la personne, je vais vous donner un exemple tout bête, mais qui est une maltraitance, c'est par exemple, dans une maison de retraite, on a eu l'appel d'une dame qui avait 87 ans et qui se plaignait parce qu'en fait, les gens la tutoyaient et chaque fois l'appelaient mamie. Elle comprend que ce soit un signe peut-être de familiarité de la part du personnel, mais en fait, elle n'avait pas donné son accord et elle trouvait ça infantilisant. Et elle se sentait rabaissée par cette expression. Donc, en fait, on l'a accompagnée pour pouvoir à la fois en parler avec les équipes la maltraitance c'est stabilisé. Ça, c'est une maltraitance, on va dire, moins dure à régler que certaines situations complexes. Mais elle fait partie, en fait, de ces signaux faibles qui sont des maltraitances et qui accompagnent, en fait, les personnes dites vulnérables assez fréquemment sans qu'on s'en rende compte. Donc, ça peut être du petit geste du quotidien que l'on fait sans penser à mal, mais à partir du moment où l'autre n'a pas été intégré en fait dans cette prise de décision et dans cette façon, c'est des choses qu'on ne ferait pas à une personne lambda, mais qu'on se permet parce qu'on considère la personne peut-être moins plus fragile.
Vous avez le sentiment que on ne valorise pas suffisamment la place ou la parole des personnes âgées et des personnes en situation de handicap?
Ah ben oui, moi je pense qu'on est dans une société clairement agiste et validiste. On le voit à travers la considération que l'on a en gros des personnes âgées en général et puis des personnes en situation de handicap. On sait malgré tout le taux d'emploi des personnes en situation de handicap, les problématiques que l'on a dans notre pays à pouvoir être ouvert d'esprit sur ces questions-là et sur l'accueil et la prise en charge et la considération à la fois des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc oui, je pense que structurellement, on est dans un pays injuste et validiste, oui.
Dans les familles, il y a parfois de la culpabilité ou de la peur de parler. Vous les aidez à lever ces freins? Ça doit être difficile de s'en briser les liens familiaux.
C'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de craintes à la fois de casser la structure familiale, qui est souvent le dernier lien de personnes âgées qui souffrent souvent de solitude et d'isolement. Donc c'est extrêmement important de pouvoir respecter à la fois la volonté d'anonymat des personnes et de respecter leur rythme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on ne fait rien en dehors de la volonté de la personne. Et si la personne le souhaite, on reste dans une relation anonyme. Nous sommes une association et notre éthique pour nous est toujours à la fois la neutralité et la préservation de l'anonymat et des personnes qui nous appellent. Donc tout est fait, en fait, vu que nous ne sommes pas une institution, on respecte totalement en fait, le droit à la personne à préserver son anonymat et sa discrétion.
Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se reconnaissent peut-être dans ce que vous avez décrit, quel premier pas concret leur conseilleriez-vous de faire dès aujourd'hui ?
Déjà, la première chose, c'est d'être vigilant, c'est-à-dire lorsque vous voyez en fait une personne autour de vous que vous connaissez qui change d'attitude, qui change de comportement par rapport à un quotidien que vous connaissez, n'hésitez pas à aller vers la personne, à lui proposer en fait votre écoute et à rester attentif à ce qui se passe autour de vous. La plupart du temps, on est pris dans un espèce de tunnel de responsabilité, de choses à faire et d'urgence, qui fait qu'on décroche souvent des petits signes et d'une attention qu'on devrait donner à notre entourage ou à nos proches qui sont dans une situation de vulnérabilité. Donc la première, c'est de rester attentif et alerte sur les changements d'attitude des personnes qui nous entourent, qui sont vulnérables. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de communiquer. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent sur le terrain et qui ne sont pas là ni pour juger, ni pour condamner, mais qui sont là vraiment pour accompagner et pour essayer de comprendre et de trouver des solutions pour une meilleure situation pour vous. Et on a des clés, voilà. Donc ce serait dommage de pas les utiliser. Le 3977 est là pour ça. Et on est une association qui est présente sur tout le territoire. Et on le répète, c'est anonyme, c'est gratuit. Et ça permet vraiment souvent de dégrossir et démêler des situations sur lesquelles on ne pense pas qu'il y ait de solution possible. Mais voilà, il y en a en tout cas, et ça commence par le fait de décrocher son téléphone et de nous contacter.
Si vous aviez un message fort à adresser au pouvoir public aujourd'hui, quel serait-il ?
Alors, le message serait simple. Aujourd'hui, l'État a voulu structurer la lutte contre les maltraitances autour des états généraux, d'une loi, d'une stratégie nationale, et on trouve ça merveilleux que l'État s'en préoccupe. Malheureusement, ils ont utilisé une façon d'agir qui est au détriment, en fait, à la fois des associations qui sont expertes et connaissent le terrain. Je vous donne un exemple tout bête. Ça fait 14 ans que nous gérons la plateforme 3977, 30 ans d'action sur le terrain par les centres ALMA, et par le biais d'un appel d'offres que nous avons perdu parce que nous étions plus 10 ans, en fait. On avait une offre qui était plus onéreuse parce qu'on doit respecter un certain code du travail. Une structure vient de remporter l'appel d'offres, et en fait à partir de février 2026, malheureusement, il n'y aura plus en fait de plateforme d'écoute nationale comme cela a été le cas avant avec le 3977, mais simplement une plateforme de recueil de signalements qui sera directement gérée par le ministère. Donc si je peux avoir une demande, c'est de continuer, s'il vous plaît, au niveau des pouvoirs publics, à comprendre que la lutte contre les maltraitances se fait forcément par une écoute neutre, anonyme et gratuite. C'est extrêmement important pour que la parole se libère et pour qu'on puisse éviter d'avoir des scandales encore comme on a eu à Orpea. Il faut que les gens puissent avoir confiance et libérer la parole, et ça ne se fait pas dans un cadre, malheureusement, simplement de régulation, d'alerte et de signalement institutionnel, mais ça se fait par la confiance d'un appel anonyme avec des professionnels qui respectent une certaine éthique. Ça va être très compliqué parce que avant on était donc sur une plateforme qui était basée sur l'écoute, et maintenant lorsque les gens vont appeler à partir de fin février, ils tomberont sur une plateforme avec des gens qui ne sont pas experts. Ils ont recruté sur la nouvelle plateforme des gens qui sont niveau bac, malheureusement payés au SMIC, ce que nous, notre convention collective ne nous permet pas. D'où la différence de prix, mais d'où la différence aussi terrible de traitement et d'expertise que les gens vont avoir à l'autre bout du fil. Maintenant, à partir de début mars, ça va être le remplissage d'une fiche avec un signalement qui sera renvoyé vers les autorités compétentes. Avant, vous aviez des professionnels qui étaient là pour comprendre la situation, vous accompagner et, le cas échéant, créer une alerte. Mais dans une phase, on va dire quasiment au niveau 2 ou 3, lorsque la personne était d'accord et souhaitait agir sur sa situation. Là, aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Et pour terminer, cette perte d'appel d'offres, pour nous, signifie un drame. C'est-à-dire que moi également et 23 de mes collègues seront licenciés économiques à partir de fin février, parce que l'État n'a pas souhaité reconduire l'accompagnement de la Fédération 3977. Et du coup, voilà, les centres ALMA continueront dans les départements à accompagner, mais la Fédération ne sera plus. quand on a des dossiers qui arrivent et qu'on leur dit que voilà, malheureusement, il n'y aura plus de plateforme d'écoute parce qu'on n'est plus subventionné par l'État comme on l'était depuis 15 ans pour faire ce travail-là. On a été les premiers à le faire gratuitement. L'État a souhaité nous soutenir. Et aujourd'hui, au moment où ils reprennent une stratégie nationale et veulent s'y intéresser, en fait, malheureusement, c'est pas. Enfin voilà, je pense que c'est par méconnaissance en fait de la maltraitance et du terrain qu'ils font ça, mais ça a un impact direct et très fort en fait sur vraiment la prise en charge des maltraitances. Si on n'offre pas un espace sécurisé, anonyme et fiable, on sait que la parole ne se libérera pas.
Parfois, un simple appel peut faire toute la différence, mais bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Les voix de l'égalité.